20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Sans conteste, le trésor de Tavers a été dans toutes les conversations d'archéologues la semaine dernière. Découvert en 2012 dans un champ du Loiret, mais par des clandestins munis de détecteurs de métaux, appareillage strictement interdit pour toute recherche archéologique, ce trésor gaulois du 6e siècle avant notre ère était en effet mis en vente suite à un imbroglio entre différentes parties. Convoité par de grands musées mondiaux, dont celui du Qatar, ce trésor national allait-il disparaître, dispersé dans quelques collections privées? Tous les amoureux du patrimoine ont été soulagés d'apprendre que cette merveille celtique venait d'être achetée au dernier moment par le ministère de la Culture et allait désormais rejoindre notre grand musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Aujourd'hui, nous ouvrons un autre dossier dont personne n'a encore jamais parlé. Les collections de la grotte de Montgaudier, en Charente. Pour en parler, Jean-François Tournepiche. Bonsoir.
Bonsoir.
Paléontologue, élu charentais de l'année 2017, vous êtes le conservateur en chef au musée des Beaux-Arts d'Angoulême. Jean-François Tournepiche, que pensez-vous de ce trésor de Tavers qui a eu par chance un dénouement heureux grâce à une très forte mobilisation des archéologues?
Oh, à brûle pour point, beaucoup de choses. D'abord, quelque chose de positif, l'archéologie nous étonne tout le temps. Merveilleuse découverte, on peut en faire d'année en année. Ensuite, une inquiétude, le patrimoine est fragile et on peut voir que ça peut très vite déraper, il peut très vite être dispersé et disparaître à jamais. Et puis, la troisième, c'est une vaste question sur ce patrimoine qui était un patrimoine de l'humanité. Que vaut-il? À qui appartient-il? Qu'en faire?
Le prix.
Le prix du passé dans cette société où tout est commercialisé.
On y reviendra. Nous allons évoquer d'autres collections, dont celle de la grotte de Montgaudier, un site emblématique de la préhistoire charentaise à vos yeux.
Oh oui, magnifique cavité, un porche de 10 mètres sur 15 qui s'ouvre sur la petite vallée de la Tardoire, au milieu d'un ensemble exceptionnel de sites préhistoriques.
C'est une grotte à étages, par exemple?
Quand on dit une grotte, on devrait dire un paquet de grottes. C'est un piton qui est comme un véritable gruyère avec 10 ou 20 cavités différentes et avec des remplissages qui sont eux aussi d'époques différentes.
Alors nous voici dans une petite vallée où l'homme a vécu des millénaires, à en voir donc les très nombreuses grottes occupées.
Oui, il y a une occupation continue ou par intermittence depuis pratiquement 200 000 ans. Ce qui est quand même assez considérable. Et surtout, ces occupations ont laissé des traces successives dans toutes les cavités. Nous sommes ici dans un karst, ce karst qui s'appelle le karst de la Rochefoucauld. Et c'est une mine pour les archéologues.
C'est une mini-vallée de la Vézère?
C'est tout à fait comparable, en moins spectaculaire, à la vallée de la Vézère. Les recherches y sont aussi anciennes et la diversité et la richesse des sites est à peu près égal.
Alors, il y a bien sûr des noms de grottes que l'on a forcément appris à l'université. La grotte de Fontéchevade, par exemple.
La grotte de Fontéchevade et son célèbre squelette humain dont les fouilles ont été reprises à la fin des années 90. La Charente, vous savez, est célèbre pour ses hommes fossiles.
Il était néandertalien.
Alors, voilà. Donc, on l'a rajeuni. On l'a rajeuni. On pense qu'il date d'environ peut-être une cinquantaine de milliers d'années seulement. Ce qui est pas mal. Par contre, il y a des dépôts très anciens qui datent du dernier grand interglaciaire, les miens, c'est-à-dire aux alentours de 110 à 130 000 ans.
Et puis dans cette vallée, il y a la grotte de Villeneuve. La grotte de Villeneuve et aussi le trou du Charnier qui sont parmi les dernières grottes où l'on ait découvert de l'art rupestre paléolithique.
La veine du Charnier qui est le reflet de l'activité intense des spéléologues dans cette région. Les spéléologues, ça creuse, et ben le spéléologue, ça trouve. Et là, après avoir trouvé quelques années auparavant des ossements d'animaux tombés naturellement dans ce puits, ils ont trouvé un passage et là, une grotte qui était fermée depuis pratiquement 25 000 ans, avec de la rupestre, une main notamment, un visage, mais également un squelette humain et, c'est tout à fait curieux, des squelettes de hyènes. Il y a 5 ou 6 squelettes de hyènes entiers qui sont là sur le sol, à côté de ce squelette humain.
Et le squelette humain n'a pas été dévoré par les hyènes ?
Apparemment pas, mais pour l'instant tout est toujours en place. C'est une grotte qui reste à étudier.
Et cet humain, c'est un Homo sapiens sapiens ? C'est un homme moderne, un homme de Cro-Magnon ?
Voilà, un homme ancien, moderne. C'est vrai que par facilité de langage, on parle d'homme de Cro-Magnon, mais maintenant, c'est un terme un peu dépassé, mais on sait de quoi on parle.
La grotte de Villeneuve a été découverte, son art du moins a été découvert il n'y a pas si longtemps ?
Oui, c'est en 2005, donc c'était hier. Et on note que d'année en année, nombre de sites sont découverts, signalés par les spéléologues. Beaucoup de sites naturels, des avennes-pièges, des repères de carnivores. Mais bien sûr, découverte ne veut pas dire forcément fouille. Donc tous ces sites sont recensés, sont protégés. On a même rebouché une grotte. Il y avait un couloir couvert de tessons de l'âge du bronze final. Donc des photos ont été prises et il y a un bouchon de 3 mètres d'argile qui a été remis en place. C'est un potentiel archéologique pour le futur.
La grotte du placard est aussi très étonnante avec une histoire, puisqu'elle, on peut dire qu'elle a été fouillée deux fois de fond en comble.
La grotte du placard, elle aussi très célèbre, c'est elle qui a servi à l'abbé Breuil pour définir les phases anciennes du Magdalénien. Et puis, comme toutes les grottes de la région, eh bien, elles ont été piochées, repiochées. Et c'est seulement en 85-86 que Louis Duport, l'archéologue départemental, qui nettoyait cette grotte, découvrait des niveaux en place. Et depuis, Jean-Claude et son équipe ont refait des fouilles, ont retrouvé des niveaux en place et ont permis de préciser avec nos connaissances de la fin du XXe siècle ce qu'étaient ces niveaux.
Alors j'étais passé sur le terrain il y a bien sûr déjà pas mal d'années. Ce qui était très intéressant, c'est qu'ils y découvraient des plaquettes gravées du Paléolithique supérieur, un art mobilier.
Un art mobilier, des gravures également sur les parois, mais il y a des centaines de blocs qui portent des gravures qui sont extrêmement fines et qui étaient tellement discrètes que les fouilleurs anciens n'y avaient pas prêté attention.
Ce qui est intéressant, c'est que l'on voit là que tous ces sites que l'on croyait totalement épuisés ne le sont pas du tout pour finir.
Et oui, ça c'est la grande leçon de la fin du XXe siècle. Ces grands sites qui passaient au musée de la préhistoire livrent encore beaucoup d'informations, soit des informations nouvelles, soit en réétudiant ces sites, des réinterprétations, des datations, une vision qui souvent diverge des premières interprétations.
Donc il y a encore un très très fort potentiel en préhistoire.
Oui, c'est certain, il est là, il est protégé, il est répertorié au service régional de l'archéologie, donc on sait que ce potentiel est là, et après il faut des programmes de recherche et des équipes pour s'attaquer à ce terrain.
La grotte de Montgaudier aurait été découverte en 1850, et là encore, tous les archéologues du 19e siècle y sont passés.
Et oui, son grand porche a tout de suite attiré les premiers chercheurs qui, vous le notez, sont contemporaines de ces premières recherches de celles qui sont faites dans la vallée de la Vézère. Et Larté, le célèbre Larté, est venu lui aussi fouiller dans cette grotte. Et ils avaient déjà vu l'énorme potentiel de cette cavité avec déjà des époques différentes qui, dès les années 1850-60, on avait déjà noté qu'il y avait plusieurs choses différentes dans cette vaste cavité.
Et tout n'a pas été fouillé.
Tout n'a pas été fouillé. Vous connaissez un peu le procédé des fouilles désordonnées. Donc souvent on remanie les mêmes déblais. Et il a fallu attendre les années 60, 1960, pour que des fouilles systématiques, sérieuses, soient reprises par Louis Duport, et qui a fouillé pendant une vingtaine d'années et constaté qu'il y a beaucoup de choses encore qui étaient enfouies dans le sol de ces grottes.
Cette grotte tire surtout sa célébrité d'une très grande découverte, la mise au jour d'un objet en 1886.
À l'époque, on appelait ça un bâton de commandement. C'est un objet en bois de Rennes, un morceau de bois de Rennes qui a été percé d'un trou cylindrique. Et ce bâton de commandement de Montgaudier, vous pouvez aller le voir pas loin de ce studio au Musée de l'Homme. C'est une des pièces vedettes du nouveau Musée de l'Homme. C'est un bâton qui est couvert de gravures et qui, à l'époque, a vraiment marqué la préhistoire. Ce sont des gravures de phoques, de saumons, et puis peut-être d'anguilles ou d'ophidiens, on n'est pas tout à fait d'accord, et des animaux traités de façon très réaliste.
Alors vous dites bâton de commandement, on peut penser qu'il y avait un commandement au paléolithique, mais on peut penser qu'il n'y en avait pas non plus. Quelle était la fonction de ce genre d'objet ? Marcellotte me disait que c'était une sorte de clé pour redresser des objets en ivoire ou en bois.
Voilà, c'est ce que l'on pense, puisqu'on a des instruments équivalents dans des sociétés inuites. C'est finalement une clé. Mais c'est un instrument qui devait être un instrument permanent que l'on avait sur soi. Et cet instrument est très souvent décoré de représentations symboliques. Donc c'est quelque chose qui n'est pas l'instrument de fortune, comme l'éclat de silex que l'on va jeter tout de suite après, mais quelque chose que l'on garde et que l'on décore.
Alors les représentations de phoques, c'est voici quelque chose de tout à fait exceptionnel. Cela montre les liens entre les populations préhistoriques de l'intérieur, donc de la Charente, avec la mer, une mer qui, elle, était bien plus loin qu'aujourd'hui.
Alors actuellement, elle est à 100 km de la grotte de Montgaudier. À l'époque, elle était à 300 km des côtes charentaises. Mais faut-il s'étonner d'un rayon d'action de plusieurs centaines de kilomètres lorsqu'on parle de peuple chasseur-cueilleur ? Lorsque l'on regarde les chasseurs-cueilleurs actuels ou subactuels, on s'aperçoit que ce sont des gens qui parcourent de très grandes distances. Et il n'y a rien de choquant de constater qu'ils avaient un rayon d'action très très vaste, et d'autres éléments, comme par exemple des coquilles marines, nous montrent qu'il y avait des contacts avec l'océan, coquilles de l'Atlantique, ou même coquilles méditerranéennes, qui se retrouvent dans ces sites charentais.
C'est une pièce quand même unique, ce bâton représentant donc des phoques. On connaît d'autres mammifères marins dans l'art mobilier paléolithique ?
Alors, je ne suis pas spécialiste de l'art paléolithique, il y a quelques représentations encore de phoques, mais c'est un animal qui est quand même très peu représenté dans l'art paléolithique. De même que les anguilles ou serpents, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Les saumons, par contre, on connaît différentes représentations de saumons dans l'art paléolithique.
Comment ce bâton percé est-il arrivé au musée de l'Homme ?
Eh bien, Eugène Peignon, le propriétaire de cette grotte, faisait creuser la grotte, qui servait de carrière en fait, pour amender ses terres. C'était un passionné d'agriculture, mais c'était également quelqu'un qui était très cultivé et qui s'intéressait au passé. Et il a découvert, derrière ses ouvriers, donc cette pièce remarquable. Il en a fait don à Gaudry qui était professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, et c'est comme ça qu'en 1886, cette pièce remarquable est rentrée dans les collections du Muséum National d'Histoire Naturelle.
Non protégé, le gisement a été ensuite laissé à l'abandon. C'est un peu ce qui arrive quand les archéologues partent.
Et oui, et vous savez que les lois sur le patrimoine sont finalement relativement récentes, hein. Elles datent de 41 pour les premières, et n'importe qui pouvait, en s'accommodant avec le propriétaire, donner un coup de pioche dans un site archéologique. Et là, ce site célèbre, bien sûr, a vu défiler tous les archéologues de renom, mais également tous les collectionneurs du coin qui ont pioché et repioché pendant plus d'un siècle cette grotte, sortant certainement des dizaines et des dizaines de milliers d'objets de ces niveaux.
Où le matériel archéologique est-il stocké aujourd'hui ?
Tout ce qui est antérieur aux années 60 a disparu. Par contre, les fouilles qui se sont déroulées entre les années 65 et 85, tout ça était conservé dans un local sous l'autorité du service régional de l'archéologie, mais restait propriété de la famille propriétaire de la grotte.
Vous avez essayé de rechercher les traces de tout ce mobilier perdu ? On peut en retrouver comme ça dans des collections ?
Oui, mais il faut dire que ça n'apporte pas grand-chose. Bon, un silex taillé, une dent d'ours, on sait que ça vient de Montgaudier, mais qu'en tirer sur le plan scientifique ?
Regardons les différentes occupations de cette grotte. Les premiers occupants ne sont pas des hommes, mais des grands prédateurs. Jean-François Tournepiche ?
Bien sûr.
C'est votre sujet.
Absolument. Les ours, ours de Denninger pour les plus anciens, ours des cavernes, leurs descendants, mais également lions, hyènes, fréquentaient toutes ces cavités. On va retrouver des quantités d'ossements qui sont donc là, dans leur milieu naturel.
Donc vous retrouvez les ours et les tanières ?
Bien sûr. Oui. Donc à différents endroits de la grotte, révélés, notamment pour les hyènes, non seulement par la présence de ces carnivores, de l'hyène, mais également par ces proies qui ont été dévorées, qui portent les marques de ces actions de carnivores.
Alors justement, évoquons les repères de hyènes. Je me rappelle de notre lointaine visite de la grotte de Rochelot que vous fouilliez à l'époque dans les années 1990. Une tanière, je dirais presque mieux, une sorte de pouponnière de hyènes.
Ah, nous étions jeunes et les grottes étaient bien inconfortables à l'époque. Il se trouve effectivement que la Charente livre des quantités de sites naturels, soit des animaux qui sont morts dans les grottes, qui sont tombés dans les grottes, dans des puits naturels, soit des carnivores qui habitaient ces grottes. Ce sont des dizaines de sites qui ont été repérés, quelques-uns ont été fouillés méthodiquement. Mais à y réfléchir, c'est peut-être pas une caractéristique de la Charente. C'est tout simplement, comme dans bien des cas, il suffit qu'un chercheur s'intéresse à ce sujet et cherche quelque chose pour le trouver. Donc je pense qu'il y a d'autres, j'ai des collègues, des jeunes collègues qui commencent à travailler dans le Lot, en Dordogne, et bien sûr, s'intéressant à ce sujet, ils trouvent des sites à peu près identiques.
Alors moi j'ai souvenir que c'était une grotte extrêmement étroite, puisque mon magnétophone Nagra ne tenait pas dans la largeur, qu'il y avait des milliers de moustiques et qu'il ne pouvait y avoir qu'une personne qui fouillait. C'est bien ça?
Et oui, ces animaux se réfugient dans des trous très étroits, notamment pour élever les jeunes hyénons. Ils ont tendance à habiter justement les grottes profondes et difficiles d'accès.
Et qu'est-ce que vous aviez comme faune dans cette tanière de hyènes?
Alors,
est-ce que d'ailleurs, cette faune est-elle le reflet de la faune réelle qu'il y avait à l'extérieur?
Les hommes préhistoriques et les hyènes font le même travail. C'est-à-dire qu'ils collectent des ossements pour les accumuler dans leur habitat, la grotte. Mais les hyènes font mieux le travail que les préhistoriques, parce que les hyènes dévorent tous les cadavres et ramènent les restes de cadavres qu'elles trouvent sans discernement, ce que ne faisait pas l'homme paléolithique. Donc on va avoir un cliché de la faune environnante à telle époque. Il y a des tanières de périodes différentes. Et là, c'est une tanière qui se situe aux alentours de 100 000 ans. Et on a toute la faune dans un rayon de 30 kilomètres qui est concentrée ici, dans cette cavité.
Vous dites de la faune, mais il y avait quand même un néandertalien qui s'était fait croquer par une hyène.
Et voilà, c'est que, je vous disais, ça, la hyène, elle ramasse tout ce qui se mange. Et il se trouve qu'il y avait un néandertalien ici qui a été, dont des restes squelettiques ont été ramenés et rongés par les hyènes.
Dont une dent, c'est ça? Je me souviens de
ça. Il y a tout un dentier. Il y a 8 dents et un numérus qui sont rongés.
Elle a tout consommé. Faisons une exception puisque jamais, au grand jamais, notre émission n'a parlé de dinosaures. Toutefois, vous supervisez, avec bien sûr d'autres chercheurs, une grande fouille et un grand chantier consacré à ces dinosaures, le seul en France?
Eh bien, il se trouve que on peut découvrir ce qu'on ne cherche pas. Là, nous travaillons sur des éléphants fossiles dans les alluvions quaternaires de la Charente. Et puis, en creusant plus profondément, eh bien, ce sont des autres dinosaures qui sont apparus. Donc là, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Comme il y avait beaucoup d'autres dinosaures, eh bien, j'ai appelé mon collègue Ronan Alain du Muséum en disant, voilà, il faut monter une équipe de recherche parce que là, il y a un site extraordinaire. Donc voilà comment on peut glisser du quaternaire au mésozoïque à travers d'autres chercheurs qui ont bien sûr cette compétence.
Ce gisement est exceptionnel.
C'est un des plus grands sites à dinosaures européens parce qu'il ne s'agit pas simplement de restes de dinosaures, mais c'est tout un écosystème, une plaine marécageuse tropicale qui est fossilisée ici. Donc il y a toute la faune, la flore qui est conservée et ce sont des dizaines de milliers d'ossements qui ont été exhumés en 10 ans.
Quel dinosaure?
Une grande variété de dinosaures, un troupeau d'une sorte de dinosaure autruche. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on a là l'espèce de dinosaure la plus grande connue au monde, un sauropode, vous savez, les diplodocus, ces grands dinosaures, l'espèce d'Anjac, un thuriasaure, d'après mes collègues spécialistes, est la plus grande, ou une des plus grandes, jamais découverte au monde.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Jean-François Tournepiche, l'homme de Néandertal s'implante aussi dans votre grotte durant le paléolithique moyen ?
Il s'implante dans la grotte, comme il s'est implanté en Charente. Vous savez que la Charente est celui qui a livré le plus grand nombre d'individus, le plus grand nombre de Néandertaliens en France. Alors souvent, ils ne sont représentés que par une dent ou que par un petit morceau d'os, mais il y en a vraiment dans beaucoup, beaucoup de sites. Et bien sûr, la grotte de Montgaudier ne fait pas exception. On va retrouver là, ici, les traces de sa vie, de son passage, de nombreuses industries moustériennes, et puis également les animaux qu'il a consommés. Et il a laissé ici une mandibule d'adolescent qui porte encore ses dents.
Il chasse quoi, ce Néandertal, dans cette grotte charentaise ?
Principalement du renne, des cervidés, du cheval, du bison, la faune environnante. Et il va donc ramener ça dans son habitat et fragmenter les os en tout petits morceaux.
J'ai lu que les archéologues auraient trouvé une sorte de dépôt un petit peu particulier, fait de rognons de silex.
Alors, c'est une période beaucoup plus récente. Là, nous sommes après au Paléolithique supérieur. Et en fait, c'est une étoile extraordinaire, ce sont 5 nucléus. Vous savez, le nucléus, en fait, ce sont des pièces de silex à partir desquelles on va tirer des éclats. Donc il faut préparer ces blocs de silex, il faut préparer ces nucléus. Et là, un Magdalénien a préparé 5 nucléus, et donc des pièces de valeur, et il les a enterrés dans cette grotte. Il a fait une cachette, et cette cachette, eh bien, elle est restée intacte en 15 ou 18 000 ans. Il l'a oublié.
Bien plus riche est le paléolithique supérieur et l'homme moderne qui s'y implante dès son arrivée, bien sûr avec la culture que l'on appelle aurignacienne. On tourne autour de 40 000 ans.
Voilà, donc on a tendance à vieillir les datations, on est aux alentours peut-être de 45 000 ans. Effectivement, les premiers hommes anatomiquement modernes, les fameux Cro-Magnons, arrivent ici en Charente et s'implantent dans une quantité de sites, dont la grotte de Montgaudier.
C'est assez rare de tomber sur des gisements aurignaciens. Il y en a bien sûr, mais on n'en a pas tant que ça.
Non, je dirais qu'en Charente, il y a un certain nombre de sites avec les grands sites, comme le site de l'Aquina, célèbre également aussi pour ses occupations moustériennes, mais la grotte des Rois, les Vachons, une quantité de sites qui voient arriver cet homme moderne avec un outillage tout à fait nouveau et une culture tout à fait nouvelle pour la région.
Vers 15 000 ans, émerge une nouvelle culture préhistorique, peut-être la plus connue, la culture magdalénienne. C'est ces magdaléniens qui vont nous laisser ces extraordinaires objets d'art mobilier.
Oui, surtout dans la grotte de Montgaudier. La période la plus riche se situe au magdalénien moyen, un magdalénien plus récent, disons entre 18 000 et 14 000. Et c'est la pleine production d'objets portant des gravures, que ce soit aussi bien les bois de Rennes, les os, que les galets.
Alors j'ai vu que vous aviez un bâton avec des chevaux gravés dessus.
Absolument, une frise de chevaux, des chevaux avec des grosses têtes, des chevaux macrocéphales, et ce sont ce type de gravure, on le connaît dans d'autres sites assez caractéristiques de ces périodes magdaléniennes. Là encore, ce sont des bâtons percés. Là, il s'agit en fait d'un bâton qui est percé d'au moins 3 trous. Là encore, utilisation assez énigmatique.
D'autres ont des rennes, des bovidés, des bisons. Il y a même un lion.
Oui, et ce qui est étonnant, il y a un galet, un galet plat d'une vingtaine de centimètres. Et là, on a une superposition de gravures très belles anatomiquement. C'est un trait à la Picasso. Hein. Vous voyez là les profils de visage que pouvait faire Picasso. C'est ça, un simple profil. Et vous reconnaissez toutes les subtilités d'un profil de cerf, de bison, de cheval. Il y a du saumon, il y a du lion, et tout ça est superposé sur un même galet, se trouve enchevêtré.
Tout ça est imbriqué, donc.
Oui.
On est sur l'apogée de cet art magdalénien avec cette grotte de Montgaudier.
Pratiquement. Bon, il nous manque les représentations pariétales. On va les trouver dans le Périgord. Mais là, tout l'art mobilier, ce qui est porté par les os, les bois de Rennes et puis les galets est très bien représenté dans cette cavité.
L'art rupestre de la grotte de Villehonneur ou du trou du Charnier n'appartiennent pas à cette culture magdalénienne ?
C'est une période beaucoup plus ancienne. C'est le Gravettien. Là, on est aux alentours de 25 à 27 000 ans. Donc, 10 000 ans plus tôt.
Pourquoi n'ont-ils pas peint ? Ça paraît curieux.
Pourquoi les peintures ne se sont-elles pas conservées ? Il n'y a pas de raison, s'ils peignaient les grottes dans le Périgord, pourquoi les auraient-ils pas peintes en Charente ? Tout simplement que les conditions de conservation sont rares. Et dans cette région, il faut croire que cette grotte, qui est quand même un peu ouverte vers l'extérieur, n'a pas conservé ses peintures. Mais les traces d'ocre que l'on trouve dans les sédiments prouvent qu'il maniait très bien les colorants.
Il y a aussi de nombreux objets, notamment des motifs géométriques avec des triangles et des trapèzes. Voici peu, la grotte était à vendre, la collection aussi ?
Oui, cette famille, la famille Brudeau, qui est propriétaire depuis un siècle et demi de cette grotte, mettait en vente la propriété, la grotte, et bien sûr les collections, puisque le propriétaire d'un terrain est propriétaire de son contenu, et le contenu archéologique donc est la propriété de ces personnes. Donc les collectivités locales se sont mobilisées pour acheter de façon très régulière aux propriétaires cette collection.
On peut encore acheter des grottes préhistoriques en France ?
C'est rare, mais en France, la propriété libre n'existe pas. Tout a un propriétaire, que ce soit l'État, que ce soit des particuliers. Donc, il y a forcément un propriétaire. Et lorsque, d'ailleurs, vous allez prospecter, même au fin fond des grottes, vous êtes dans la propriété de quelqu'un et vous devez l'informer ou lui demander l'autorisation.
Alors, depuis 2016, la loi a légèrement changé, puisque tout mobilier archéologique découvert appartient à l'État.
Je ne suis pas du tout spécialiste de loi, surtout qu'elles évoluent assez rapidement. Il y a le cas des découvertes fortuites, il y a le cas des fouilles préventives, il y a le cas des fouilles programmées, ce sont des cas différents. Et là, en l'occurrence, c'était des fouilles programmées entre 1960 et 1980. Donc l'entière propriété de ces collections est chue au propriétaire du terrain, qui est propriétaire à 100%. Et l'archéologue, lui, bien sûr, n'a aucun droit à la propriété. Contrairement à celui qui va découvrir de façon fortuite, en se promenant, un objet, une pièce de monnaie. Là, il y a une loi bien, bien particulière.
Alors, vous avez environ 50 objets d'art absolument extraordinaires, d'art mobilier. Vous avez aussi des milliers de silex. Vous devez donc trier, classer toutes ces collections qui n'ont jamais été publiées, une sorte d'archéologie de l'archéologie.
Alors, des études ont été faites, justement, par Louis Duport, qui a fouillé cette grotte, mais la science avance, et il y a besoin, bien sûr, de préciser pas mal de choses, et puis il y a encore beaucoup de travail. Donc, dans ce cas-là, que fait un conservateur de musée qui vient d'acquérir les collections ? Eh bien, il se tourne vers les spécialistes. Et c'est ce que je fais, donc je consulte des collègues en disant « Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette grotte ? Venez étudier ça. » Le propre de la fonction des musées, c'est de mettre à disposition du monde scientifique, les collections, pour qu'elles soient étudiées et puis bien sûr valorisées.
Et puis bien sûr, votre musée d'Angoulême présentera prochainement ces merveilles de la grotte de Montgaudier.
Et bien sûr,
la finalité, elle est là aussi.
C'est une des finalités, en tout cas pour un musée. Et nous avons des projets qui sont en cours. Et comme nous sommes ici à Angoulême, au milieu de l'industrie de l'image, on va faire appel aux nouvelles technologies de l'image pour pouvoir lire plus facilement ces fines gravures et remettre dans leur contexte toutes ces œuvres d'art paléolithique.
Jean-François Tournepiche, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Pierrick Charles, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, élection européenne oblige, le magazine d'archéologie de France Culture vous donne rendez-vous dans 15 jours avec les Hittites.